Bonjour, c'est Christophe Paco. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. On va s'intéresser, pendant 5 épisodes, à la Coupe du Monde de football au Qatar. La Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire moderne pour ce petit émirat à peine plus grand que la région Île-de-France. De son attribution contesté, on s'en souvient, en 2010 par des soupçons de corruption, jusqu'à la logistique mise en place désormais d'ici le grand match d'ouverture. Le Qatar a dû faire face à nombre de questionnements, comme le respect fondamental des droits de l'homme, l'écologie ou encore l'intérêt sportif pour le premier pays à accueillir une Coupe du Monde au Moyen-Orient. Le Qatar va-t-il réussir son pari ? On en parle avec Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL qui a pu voir l'évolution sur place en 12 années de longs travaux à tout niveau. On va donc, Nicolas, s'intéresser tout d'abord à ces fameux stades. Comment sont-ils ? Ils sont démesurés, clinquants ?
Alors démesurés, non. Clinquants, pas plus que les autres ou pas plus que ceux d'une autre Coupe du Monde. Finalement, on a des stades où, qui se ressemblent beaucoup d'une compétition à une autre. Le Qatar avait un stade déjà construit, le stade Al Khalifa, d'un architecte que l'on connaît bien. Il a été construit en 1976, Roger Taïber, vous savez, l'architecte du Parc des Princes. Donc c'est lui qui a construit le premier grand stade au Qatar, ce stade Al Khalifa. Et ensuite, eh bien, le Qatar a dû construire 7 autres stades pour cette Coupe du Monde. Et alors, ils sont d'une capacité autour de 40-45 000 places. Il y en a 5 sur les 8 qui sont de cette capacité. Après, vous avez deux stades un peu plus grands, Al Bayt, 60 000 places, et le stade qui va accueillir la finale, qui s'appelle le stade de Luzail, et qui va faire 80 000 places. Après, dans les dispositions, évidemment, le Qatar a fait appel à des designers de premier plan, très renommés. On a, par exemple, un stade en forme de tente bédouine. On a le stade de la finale qui va prendre la forme d'un bol de date. C'est un petit peu ce qu'on offre aux étrangers quand ils arrivent, le cadeau de bienvenue. Donc voilà, on a essayé côté Qatari d'avoir un petit peu un fil conducteur comme ça dans l'architecture. Mais après, proportionnellement, quand on regarde d'autres Coupes du Monde ou des Euros de football, vous avez des pays où il y avait des stades qui étaient plus grands, qui étaient plus majestueux, plus vastes.
Oui, donc, c'est pas finalement, le Maracana, c'est pas non plus Camp Nou, quoi.
Non, voilà, ça reste quand même sur quelque chose d'assez mesuré. Après, il y a des spécificités. Le stade 974, du nom de l'indicatif du téléphone du Qatar, 974, et aussi parce qu'il est constitué de 974 containers maritimes recyclés. C'est un stade qui sera démontable partiellement, voire totalement.
C'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, c'est vrai.
Exactement. Et voilà, ça fait la petite bizarrerie, on va dire, au niveau des stades dans cette Coupe du Monde.
Alors, l'originalité, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une originalité, on peut peut-être parler d'autre chose, même ce qui a fait le buzz depuis un certain temps, Nicolas, c'est quand même la climatisation, ça a beaucoup fait parler.
Oui, et d'ailleurs, on voit l'évolution des mentalités par rapport à ça, parce que lorsque le Qatar a annoncé il y a plus de 10 ans qu'ils allaient sans doute utiliser la climatisation dans les stades, on a vu ça d'abord, même s'il y a eu des voix discordantes pour dire à raison que c'est une aberration écologique, mais pour dire qu'on a vu ça un peu comme un gadget au début. Et maintenant, on voit que c'est devenu un problème pour le Qatar, un problème pour la FIFA. Alors, pour être clair, la température en novembre et en décembre au Qatar, autour de 24-25 degrés en moyenne.
C'est mieux que l'été.
Ce qui veut dire que le Qatar ne va pas sans doute pas utiliser la climatisation, en tout cas pas à chaque fois qu'il y a un match durant cette Coupe du Monde. C'est aussi un argument, on l'a bien compris, politique, pour évidemment calmer un peu la levée de boucliers. Alors cette climatisation, on la retrouve dans tous les stades, sauf un, celui dont on vient de parler, le stade 974, qui est très ouvert et qui laisse passer un petit peu de l'air et du vent. Mais sinon, vous avez des systèmes de climatisation qui ont été adaptés à tous les stades. Alors, le plus élaboré, c'est le stade Al Janoub, qui va d'ailleurs accueillir le premier match des Bleus. Le stade Al Janoub, c'est un stade qui est à Al Wakra, à 20 km au sud de Doha. qui a une forme bien particulière. Alors quand ils utilisent la climatisation, ils la mettent pendant 2-3 heures avant le coup d'envoi. Ça crée une espèce de bulle qui reste au niveau des tribunes. Évidemment, il y a un peu de... ça s'échappe un petit peu, mais c'est un mouvement qui permet de rester au niveau des tribunes. Et c'est le seul stade où vous avez des bouches d'aération individuelle sous chaque siège.
Chaque siège,
oui. Alors moi, je l'ai vu, je l'ai constaté. Vous avez quatre petites bouches comme ça sous chaque siège pour permettre.
Et tu sens l'air passer.
Et on sent effectivement l'air.
Ça chatouille le mollet.
L'air passer. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça. La première fois que le Qatar a utilisé la climatisation, en ayant mis au point dans l'un de ses stades, c'est dans le stade Al Khalifa, c'était en 2017. Et alors, ils avaient réglé à 17 degrés. Alors, oui. Il faut imaginer, vous avez à peu près 150-180 bouches d'aération au ras de la pelouse. Ça fait 25-30 cm de diamètre. Ils avaient mis à 17 degrés et les joueurs étaient en doudoune et en parka parce qu'ils avaient froid. Bon, ça fait partie des ajustements qu'ils ont fait au fil du temps et au fil des années. Mais il a fallu en tout cas adapter à chaque stade ce système de climatisation qui évidemment fait beaucoup parler. Et encore une fois, ce n'est pas sûr qu'il soit utilisé.
Alors, on parle beaucoup de nous, des spectateurs, des observateurs, des journalistes, mais il reste l'essentiel pour un joueur de football, Nicolas. C'est la pelouse, le rectangle vert. Quelle qualité des pelouses ? Ce sera comme au Parc des Princes ? On a appelé un jardinier anglais, je ne sais pas.
Alors, ils ont voulu l'excellence. Ils font venir chaque année des semences d'herbes des États-Unis. Là aussi, vous voyez un peu le bilan carbone, mais ils sont allés chercher des semences d'herbes là-bas. Il y a au nord de Doha, à 20-30 km, il y a quelque chose, comme on pourrait dire une pépinière, en fait une réserve d'herbes pour l'équivalent de 40 terrains de football. Ça, c'est pour parer à tout problème. Sinon, il faut quand même équiper évidemment les 8 stades, mais il faut aussi équiper à peu près une quarantaine de sites dans les camps de base de chaque équipe.
Les terrains d'entraînement.
Et les terrains d'entraînement, évidemment. Alors, c'est une... moi, je l'ai constaté, c'est quand même une herbe et des pelouses de très, très bonne qualité. Et les joueurs n'auront pas, et les sélectionneurs, toutes les équipes ne pourront pas se plaindre de tout ça. Mais on voit avec le contexte géopolitique que rien n'est facile. C'est-à-dire qu'il y a un fournisseur néerlandais qui fournit tous les euros depuis 2008, qui, pour des raisons politiques, a refusé donc de fournir le Qatar en herbe, alors que c'est un fournisseur assez classique et traditionnel avec l'UEFA ou avec la FIFA.
C'est de la pelouse semi-naturelle, semi-synthétique, ça se passe comment ?
Alors, c'est une pelouse naturelle, mais qui est très traitée au niveau pour éviter champignons, évidemment les mauvaises herbes, mais pour éviter aussi toute dégradation. Et vraiment, pour l'instant, dans ce qu'on a constaté il y a encore quelques semaines, ce sont des pelouses de très bonne qualité.
Très belle pelouse, des stades, une clim qu'on va régler selon. On rappelle qu'on a décalé quand même la Coupe du Monde pour jouer en hiver, faut-il le rappeler, automne-hiver en tout cas. Il reste, on l'a constaté à Londres, souvent on se demande ce que deviennent les stades après. Ces stades installés au Qatar, qui ont été fabriqués avec l'imagination, je l'ai compris, des dirigeants qataris, que vont-ils devenir, Nicolas ?
Alors, ils vont rester là, hein. On ne va pas tous les démonter. Le stade 974, il fait 40 000 places. C'est un stade que vous pouvez démonter pour en faire 2 fois 20 000 ou 4 fois 10 000. Alors, le Qatar est assez flou pour l'instant sur ce qu'il veut en faire. On ne sait pas si ce stade-là va rester au Qatar. Si, comme il est annoncé, il va peut-être être donné dans un pays en Afrique, parce que le Qatar aussi veut étendre sa zone d'influence et ça pourrait être perçu comme ça. Ça, c'est une raison géopolitique.
Oui, toujours le soft power, bien sûr.
Exactement. Tout à l'heure, on parlait de la climatisation. Ça, son importance, c'est que nous, on critique par rapport à la Coupe du Monde et par rapport à cette période, mais c'est surtout parce que le Qatar veut utiliser les stades après pour ses associations, ses clubs de sport et l'utiliser tout le temps. Quand il fait à peu près 42-45 degrés en plein été, ils veulent pouvoir faire jouer encore les enfants sur les pelouses et utiliser les terrains. Ça, c'est la justification de l'utilisation de la clim par le Qatar. Ensuite, les autres stades, beaucoup, on va démonter en partie l'anneau supérieur, parce que 40 000 pour le championnat qatarien, c'est beaucoup trop. Donc des fois il y a des matchs, hein, vous savez, avec simplement 500 ou 1000 spectateurs.
De la mesure dans la démesure.
Et donc on va enlever cet anneau supérieur. Ils veulent faire des chambres comme des hôtels, ils veulent adapter avec un centre commercial. Voilà, bref, en faire un petit peu des lieux, mais baisser la capacité, parce que évidemment des stades de 40 000, c'est c'est quand même trop important au quotidien au Qatar.
Nicolas Georgerot, qui est allé pour vous évidemment au Qatar quelques mois avant la grande Coupe du Monde 2022. Podcast à retrouver sans modération sur votre appli préférée, bien sûr, en priorité sur l'appli RTL. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Hey.